Alors, pour vous faire approcher cela, je vous ai mis un texte dont je vous ai sans doute déjà parlé, un texte du Talmud, qui vient du traité Baba Metzia. Vous aurez ce texte tout à l'heure. Voilà ce que dit le Talmud. C'est le fameux passage qui s'intitule, enfin, on appelle ça le four du serpent. Donc, je vous explique un peu en amont quelle est la question qui est posée par les sages du Talmud. Vous avez une loi de pureté et d'impureté dans le Talmud. Quand un objet contracte une impureté, par exemple, il a été au contact d'un cadavre, il a été au contact de ceci, voilà, il est déclaré impur jusqu'au moment où il se brise. Mais une fois qu'il est brisé, il perd son impureté. Ouais, donc, ce n'est pas une question simplement hygiénique. D'accord ? Quand quelque chose se brise, il n'est plus, cette chose n'est plus impure. Alors là, la règle, elle est assez claire. Mais comme toujours chez les Juifs, il y a un petit malin qui arrive et qui dit « Oui, mais à supposer qu'un objet soit constitué de choses déjà brisées en elles-mêmes. » Par exemple, un four qui est fait avec des morceaux de tuiles cassées. Donc, il est intrinsèquement brisé et en même temps, il forme un tout. Il forme quelque chose, voilà, d'unifié. Bon. Est-ce qu'il est soumis aux lois de pureté et d'impureté, comme les autres objets, ou est-ce qu'il est au-delà de ces lois? Parce que comme il est déjà brisé, dans sa structure, eh bien, à ce moment-là, il ne peut même plus contracter une impureté. Donc, voilà toujours les problèmes qui sont posés. À chaque fois que vous avez une loi qui est clairement définie, le juif va chercher le moment où cette loi fait problème. Normalement, dans les cours de yeshiva avec le père Goldman, c'est comme ça que vous procédez. C'est-à-dire que vous lisez un texte et vous essayez de voir là où ça coince. C'est la démarche typique d'une lecture. Et c'est normal parce que pourquoi ça doit être comme ça? Pourquoi ça doit être comme ça d'après vous? Pourquoi est-ce que ça ne doit pas être limpide, évident, comme une sorte de circulaire bureaucratique, la loi divine? Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être comme ça? Certains aimeraient que ce soit comme ça. Les fondamentalistes aimeraient que ce soit comme ça. Et pourquoi ça ne peut pas être comme ça? Oui?
Oui, parce que Dieu, comme il s'inscrit dans un langage fini, mais qui est infini, c'est normal qu'il y ait des choses.
Exactement. Cet écart entre notre finitude et un rapport à l'infini. D'où d'ailleurs, chez les Juifs, cette idée d'une interprétation infinie. Une interprétation infinie qui n'éclate pas, qui ne devient pas centrifuge, parce qu'on reste toujours autour du texte et parce qu'on discute entre nous dans la communauté. Et on reste la communauté pour parler de cette parole. Donc on reste ensemble, même si, parce qu'on fait la même chose, on interprète. Donc il y a une interprétation qui est d'un texte, ce n'est pas n'importe quoi. Mais vous voyez, il y a cette idée d'interprétation infinie. Et effectivement, si tout est clair tout de suite, alors ça veut dire que ce n'est qu'un langage humain, ce n'est pas un langage divin. Si la loi est la loi de Dieu, alors elle nous transcende. Et si elle nous transcende, ça signifie qu'elle est plus riche en signification, voire même en signifiance, que toutes les significations qu'on pourrait lui apporter. Donc, vous voyez, c'est ça la pratique juive, c'est de reconnaître que la parole qu'on a en face de soi, c'est une parole divine, et dès lors, il ne peut pas y avoir qu'une seule interprétation, et même ça doit faire problème. Il y a quelque chose qui doit être incompréhensible, comme Dieu est incompréhensible. C'est un chemin, mais c'est un chemin qui n'est pas notre chemin aussi. Voilà. C'est une voie qui est connaissable, mais qui reste insondable. Donc il faut lire d'une certaine façon la Bible. Alors voilà ce qui est dit. C'est l'histoire donc d'un conflit de rabbins autour de cette chose-là. Et alors, il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Eliezer qui dit que le four fait avec des tuiles découpées n'est pas soumis aux règles de pureté et d'impureté. Voilà. On enseigne dans une Mishnah, un four fabriqué en tuiles découpées et lié avec du sable n'est pas soumis aux règles de pureté et d'impureté selon Rabbi Eliezer. Alors tout de suite, vous avez une phrase, les autres sages pensent le contraire. Tout est là. C'est ce qu'on appelle le four d'Arnaï, du serpent. Pourquoi ce nom ? Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, répond « Ils l'ont entouré d'arguments, comme un serpent, qui forme un cercle pour faire rentrer sa queue dans sa bouche et ont prouvé son impureté. » Une braïta, commentaire, enseigne « Ce jour-là, Rabbi Eliezer répondit à toutes leurs objections, mais les sages n'en acceptèrent aucune. » Alors vous avez vu, là, il vient de faire, qu'est-ce qu'il vient de faire, Rabbi Eliezer ? Il vient de faire une question disputée de la somme théologique. Vous voyez, il a fait les questions, il a mis les objections, il a fait sa réponse, il a répondu à toutes les objections. Normalement, là, c'est fini, c'est ce qu'on vous a fait croire à Philanthropos. Là, c'est fini, il a répondu à toutes les objections, c'est fini, il n'y a plus rien à dire. Il leur dit, il a répondu, mais les sages n'en acceptèrent aucune. Bon. Il leur dit alors, Rabbi Eliezer leur dit alors, si la loi est comme moi, si ce que je dis est vrai, que ce caroubier le prouve. Donc il se tourne vers un arbre, il dit, voilà, maintenant l'arbre, tu vas le prouver. Le caroubier se déracina et parcourut 100 coudées, et selon certains, 400 coudées. Alors, oui, ils lui dirent, bon d'accord, il y a eu un miracle, d'accord, le caroubier il s'est déraciné, il s'est transplanté, mais ils lui répondent quand même, on n'apporte pas de preuve d'un caroubier. Bon, il dit alors, que ce courant d'eau prouve que j'ai raison, et l'eau se mit à remonter le courant. Deuxième miracle, deuxième stupéfaction. Des autres sages, des autres rabbis. Mais ils lui répondirent, on n'apporte pas de preuve d'un courant d'eau. Il dit alors, moment suprême, imaginez ici, ça se passe, que les murs de la maison d'étude le prouvent. Les murs commencèrent à s'effondrer. Vous voyez, les murs, vous êtes dans une yeshiva, vous voyez, la maison d'étude, le Beit HaMidrash, vous avez les murs qui se mettent à s'incliner comme ça sur les va écraser tous les sages pour donner raison à Rabbi Eliezer. Ça dit bien hein, le désir d'avoir raison. Avoir raison, c'est détruire la maison d'études. C'est bien ça ce qui est. Je veux avoir raison. Il n'y a plus de maison d'études d'une certaine façon. C'est ça ce qui est dit. Et alors à ce moment-là, il y en a un qui se lève. Les murs commencèrent à s'effondrer quand Rabbi Yehoshua les apostropha, donc il se met à parler à un mur, il parle au mur, et leur dit, si des sages se disputent au sujet de la loi, de quoi vous mêlez-vous ? Donc les murs, ils s'inclinent, ils se lèvent, ils disent, mais en quoi ça vous regarde les murs ? Nous on discute ? Les murs ne tombèrent pas, écoute, cette phrase est très intéressante, hein. Les murs ne tombèrent pas par respect pour Rabbi Yehoshua et ne se redressèrent pas par respect pour Rabbi Eliezer. Tout d'un coup, vous voyez, c'est mansardé. Ce n'était pas prévu. La maison d'études a changé de forme. Les murs sont inclinés. Alors Rabbi Eliezer leur dit, alors là, c'est l'argument suprême, que les cieux le prouvent. Soudain, une voix céleste sortit et déclara, « Qu'avez-vous contre Rabbi Eliezer ? La loi est toujours comme lui. » Donc, c'est Dieu maintenant qui vient confirmer Rabbi Eliezer. Vous voyez, l'argument, vous ne pouvez pas avoir d'argument plus fort. Une voix descend du ciel et dit tout d'un coup, « Écoutez, Fabrice Hadjadj, il a raison. » Ne savez-vous pas qu'il a toujours raison en plus ? Eh bien là, l'un d'entre vous peut se lever, comme d'ailleurs ce rabbi qui s'appelle Rabbi Yehoshua, c'est-à-dire Rabbi Jésus. Hein ? C'est intéressant. Rabbi Yehoshua se redressa sur ses jambes, c'est beau, c'est l'homme debout, et dit « La Torah n'est pas dans les cieux ». Phrase du Deutéronome, vous savez, qui est très importante, qui dit « La loi n'est pas dans les cieux, qu'il te faille dire qui ira me la chercher. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. » Pour que tu la mettes en pratique. Vous vous souvenez, hein, cette parole décisive du Deutéronome. Qui déjà, d'ailleurs, parle d'une descente, finalement, de la parole de Dieu dans la chair de l'homme. Et voilà ce qui a répondu. Quelle en est la signification ? Rabbi Jérémie dit « La Torah a déjà été donnée au mont Sinaï, nous n'avons donc pas à tenir compte d'une voix céleste, car il est écrit « Selon la majorité, on tranche la loi ». Remarquez que cette parole, hein, on la retrouve chez saint Paul quand il dit « Même si un ange de lumière m'apparaissait pour me dire « Autre est la bonne nouvelle », je ne devrais pas l'écouter ». Et cette idée que la révélation a été donnée désormais de manière immanente à l'Église, et que c'est à l'intérieur, ben voilà, sous une forme collégiale, il y a une collégialité, c'est vrai, de l'Église, des prélats, etc., mais sous l'autorité du magistère pontifical, que les choses se disent, vous voyez, la révélation, elle a été confiée, et nous en sommes désormais responsables. Donc si vous entendez une voix céleste, si vous voyez, vous savez, comme il y a des gens, des voyantes que les gens suivent, et ces voyantes diraient des choses qui iraient contre l'Église, imaginez. Ça ne marche plus. On est obligé de dire, ben voilà, ce n'est pas dans les cieux. À ce moment-là, Rabbi Nathan rencontra le prophète Élie. Alors vous savez, il y a des ruptures tout le temps dans la... Et lui demanda, « Que dit le Saint béni soit-il maintenant ?» Il lui répondit, voilà la conclusion, enfin la première conclusion de ce passage, parce qu'il y a une suite, je vous en dirai un mot. Donc vous voyez, Rabbi Yehoshua s'est levé, a dit, la Torah n'est pas dans les cieux, et voilà ce que dit Dieu. Il rit, Dieu se met à rire, en disant, mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Vous voyez, alors ce qui va se passer, c'est que les sages vont chasser Rabbi Eliezer parce qu'il a voulu avoir raison, de la communauté, mais au moment où ils le chassent, la communauté va se mettre à dépérir. Les fleurs vont se faner, les fruits ne vont plus pousser, etc. Donc ils vont devoir réintégrer même celui qui voulait absolument avoir raison contre les autres à l'intérieur de la communauté. De quoi s'agit-il ? De quoi nous parle ce texte ?